Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment améliorer la maîtrise des risques dans votre pratique médicale? Telle est la grande question abordée dans Time Out, le podcast de l'association Smarter, qui vous propose, le temps d'une pause avec des spécialistes, de réfléchir ensemble à l'amélioration de la sécurité de vos pratiques médicales. Tout de suite, un deuxième épisode consacré à la cybersécurité. Time Out est réalisé en partenariat avec Branchet Suisse, l'assurance des médecins. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes dans Time Out, le podcast des médecins suisses. Nous allons démarrer l'épisode numéro 2 consacré au sujet cybersécurité et santé. Vaste sujet, un sujet qui ne cesse pas de croître dans l'actualité, puisque notamment en France, de nombreux hôpitaux sont victimes de cyberattaques. Et on peut citer aussi certains médecins du privé qui sont concernés par ces nouveaux risques. Pour en parler, nous serons en compagnie de Didier Ambroise, qui est donc fondateur de Docha Consulting, un cabinet de conseil en e-santé ou en santé numérique basé à Paris, avec le docteur Romain Guyot, qui est donc anesthésiste réanimateur basé en Suisse et qui a choisi d'ailleurs son invité. C'est le docteur Guyot qui a choisi Didier Ambroise pour intervenir sur ce thème. Je laisserai Romain présenter Didier tout à l'heure. Mais avant cela, j'aimerais, si vous êtes d'accord, Romain, qu'on revienne sur la genèse de Time Out. Pourquoi Time Out ?
Alors, bonjour Alexia. Time Out, c'est le podcast de l'association Smarter qui a pour but de la prévention et la gestion des risques en médecine. Dans notre métier d'anesthésiste, on a l'habitude de faire des petits temps de pause, des team time out, pour réfléchir et prendre le temps d'éviter les erreurs quand on va endormir un patient ou l'opérer. Donc naturellement, le nom de Time Out est venu pour ce podcast.
Un podcast qui a pour objectif, évidemment, d'aborder les différents aspects de l'exercice d'un praticien en Suisse, mais aussi de parler des nouveaux risques et des différents risques auxquels vous êtes toutes et tous exposées en tant que médecin aujourd'hui. Et parmi ces risques, il y a les cyberattaques et donc l'enjeu de la cybersécurité dans la santé. Romain, vous avez choisi de faire intervenir sur ce podcast Didier Ambroise. Pouvez-vous nous le présenter en quelques mots ?
Oui, je suis très heureux d'accueillir Didier dans ce podcast parce que Didier, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années dans le milieu de la santé, ce qui s'appelait digital et qu'on appelle maintenant numérique ou e-santé maintenant, et qui a une bonne expérience de tout cet écosystème et qui a naturellement pris la voie de la gestion de ces cyber-risques au sein de son cabinet d'Ocha Consulting. Donc bonjour Didier, et puis je te laisse te présenter.
Bonjour Romain, bonjour Alexia, bonjour à tous. Donc Didier Ambroise, je suis enchanté d'être invité sur ce podcast Time Out. J'ai créé Docha Consulting il y a 8 ans, cabinet de conseil spécialisé sur le secteur de la santé numérique. On intervient par exemple en ce moment pour le ministère de la Santé dans le cadre du Ségur du numérique en santé, sur la partie médecine de ville, pharmacie d'officine et puis biologie médicale. Et au cours de mon parcours, effectivement, j'ai eu l'occasion de mener un certain nombre d'audits dans les systèmes d'information hospitaliers. Et je me suis rendu compte qu'en 15-20 ans, la sensibilisation et la prise en compte des enjeux de la cybersécurité en santé n'a pas été fantastique, on va dire, dans ce domaine-là. Et malheureusement, effectivement, le monde de la santé a été dernièrement pas mal attaqué par des pirates.
Merci Didier. Justement, ça m'amène à cette question. Alors pourquoi, à votre avis, les professionnels de santé, le système de soins est devenu la cible de prédilection des cybercriminels aujourd'hui ?
Alors effectivement, en 2001, on recense une attaque par semaine dans le domaine de la santé, toutes structures confondues, que ce soit les hôpitaux, mais aussi les laboratoires pharmaceutiques, les fournisseurs de dispositifs médicaux ou encore les patients eux-mêmes au travers de leurs professionnels de santé. C'est l'ensemble de la chaîne qui est concernée par les attaques cyber. Alors, la santé n'est pas forcément plus visée qu'un autre secteur, mais elle est plus accessible à cause de la vulnérabilité des systèmes d'information de ce secteur. Et c'est un secteur qui connaît un essor important du numérique. La quasi-totalité des métiers de la santé et du médico-social sont concernés maintenant par le numérique, mais l'informatique n'est pas la priorité en matière d'investissement, et bien souvent, le matériel est ancien et donc plus vulnérables. Par ailleurs, notamment en France, les établissements de santé ont élevé leur niveau de maturité par rapport à la cybersécurité, mais les dispositifs de prévention et de réaction, pour beaucoup, il a été constaté un manque de ressources et d'expertise sur ces sujets-là. Par ailleurs, les spécificités du secteur font que la priorité est donnée aux enjeux sanitaires et aux patients, c'est bien normal. De ce fait, le numérique apparaît comme un risque secondaire et parfois abstrait, car on pourrait penser qu'il n'y a rien à voler à l'hôpital. Mais cette affirmation est fausse. Les données médicales des patients valent cher. Au marché noir, elles s'échangent autour de 250 euros l'unité et elles peuvent servir pour d'autres crimes comme l'usurpation d'identité, des fausses déclarations, l'accès aux coordonnées bancaires, etc.
Donc ça, c'était un peu un état des lieux, en effet, de la situation en France, puisque vous êtes basé à Paris. Mais bon, cette situation traverse les frontières. La Suisse, c'est juste à côté. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, les praticiens suisses ne peuvent pas considérer qu'ils ne sont pas concernés par ces nouveaux risques. Et comme vous l'avez rappelé, le dark web monnaie assez cher ces données sensibles que sont les données patients. Alors, à quelles attaques un médecin ou un établissement de santé peuvent-ils être confrontés ?
Il existe malheureusement de nombreuses menaces. Le ransomware est la principale menace. La finalité de cette attaque est de chiffrer toute ou partie des données dans le but d'obtenir une rançon. L'idée est donc d'obtenir un dédommagement contre la clé de déchiffrement. Par contre, le fait de payer la rançon ne garantit en rien la fourniture de cette clé par le délinquant. A priori, c'est même plutôt rare et il faut en plus éviter de régler ces rançons pour limiter en fait le retour sur investissement de ce type d'attaque et donc multiplier à nouveau d'autres attaques de type ransomware. Et puis il faut également déposer plainte de façon systématique. Une autre attaque est le phishing. Et donc le phishing, c'est une forme d'escroquerie. Là, l'idée, c'est que le fraudeur se fait passer pour un organisme connu de l'utilisateur, donc un fournisseur, une institution nationale du monde de la santé, en utilisant donc le logo, le nom de cet organisme, et il envoie un email qui demande généralement de se connecter, de mettre à jour son profil, ses coordonnées bancaires par exemple, suite à un incident technique quelconque, et c'est du coup l'occasion de récupérer ces données-là. Ce qui peut se passer pour un établissement de santé, c'est ce qu'on appelle aussi un troisième risque, c'est ce qu'on appelle le déni de service. Et donc le déni de service, en fait, ce sont des robots, des machines qui vont attaquer un site web de façon très importante avec des requêtes et donc vont faire saturer le site web et le faire tomber. Typiquement, c'est aujourd'hui dans le monde de la santé, la prise de rendez-vous en ligne qui devient assez importante dans les pratiques, plus de prise de rendez-vous en ligne possible. Et on voit bien aujourd'hui, si on transpose à la vaccination anti-Covid, on voit bien que aujourd'hui, si les services tombent de prise de rendez-vous, tout de suite, on a un impact en santé publique assez fort si la vaccination s'arrête du jour au lendemain.
Merci Didier. Selon vous, quel est l'actuel état, enfin en tout cas le niveau de compétence des médecins ou des paramédicaux sur le problème de la cybersécurité ?
Alors malheureusement, il est assez faible, puisque dans le parcours des professionnels de santé, le numérique vient un petit peu, je dirais, au fil de l'eau, mais est toujours un petit peu vécu comme une contrainte, donc que ce soit sur les pratiques quotidiennes, et surtout, les formations initiales des professionnels de santé, c'est d'apprendre surtout à soigner. Et donc, c'est pas une formation d'ingénieur pour apprendre comment est conçu un système d'information, comment bien l'utiliser, comment se prémunir des attaques cyber, etc. Donc, il y a une vraie carence dans la formation des professionnels de santé aujourd'hui.
J'ai envie de rajouter une question. Est-ce que vous avez des petits conseils, ou en tout cas des bonnes pratiques. Je sais qu'il y a quand même des bonnes pratiques sur le mot de passe, sur certaines choses que les médecins, d'ailleurs en tout cas en France, sont obligés de faire pour ne pas avoir de problème avec la CNIL. Est-ce que vous avez quelques bonnes pratiques à délivrer aux médecins suisses pour déjà être un peu protégé, avoir des protections basiques?
Alors, effectivement, sur des conseils, c'est les conseils classiques d'hygiène numérique. Donc, c'est un peu le parallèle entre l'hygiène sanitaire et l'hygiène numérique. Il faut vraiment avoir en tête le parallèle. Et donc, quelques actions très simples, c'est modifier effectivement son mot de passe régulièrement, ne pas l'afficher publiquement, donc éviter les post-it sous le clavier, dans les salles de garde ou à côté du PC, ou en mode libéral, éviter effectivement d'avoir un tiroir avec un carnet et tous ses mots de passe. Mettre à jour son logiciel et son matériel, ça c'est hyper important, puisque les correctifs de sécurité sont diffusés par les fournisseurs de matériel ou les fournisseurs informatiques, donc c'est important de mettre à jour son logiciel, même si des fois des mises à jour peuvent créer des dysfonctionnements. Enfin, moi, à titre perso, je le vois souvent avec Microsoft, quand il fait une mise à jour, il faut bien penser à sauvegarder ses données. Donc ça, c'est un troisième conseil. Sauvegarde régulière des données. Et puis surtout, éviter de brancher des dispositifs de type clé USB sur du matériel de l'hôpital, hein, typiquement. Donc éviter de ramener une clé de la maison, de la brancher sur un PC ou un poste de travail à l'hôpital, en établissement. Ou, et là c'est après une question de moyens aussi, peut-être utiliser, et dans les politiques de sécurité des établissements de santé, il devrait y avoir ce qu'on appelle des stations blanches qui permettent de brancher des dispositifs type clé USB, mais de ne pas être tout de suite connecté au réseau de l'hôpital, pour justement faire ce filtre en cas de virus introduit au travers d'une clé USB.
Merci beaucoup. Alors là, par exemple, si on prend un cas d'un médecin qui arrive à son cabinet, il ouvre son PC, et là, il tombe sur un message malveillant qui lui demande de payer s'il veut récupérer les données de ses patients. Qu'est-ce qu'il doit faire ?
Alors effectivement, c'est plutôt, comme on le disait tout à l'heure, un rend-logiciel, un ransomware. Donc c'est une technique d'attaque courante, hein, bien sûr, on l'a vu. La première chose à faire, c'est de débrancher la machine d'Internet ou du réseau informatique. En établissement, peut-être alerter tout de suite le service informatique que vous avez vu votre poste de travail chiffré. Ou si vous avez un prestataire informatique, de voir quelles sont les mesures nécessaires à prendre pour pouvoir enrayer la propagation de ce ransomware. Surtout, ne pas payer la rançon réclamée, parce que vous n'êtes pas sûr de récupérer les données, et puis vous alimenterez le système mafieux. Alors, en France, on a la CNIL, donc si jamais des données à caractère personnel ont été atteintes, il faut que vous fassiez une notification à la CNIL qu'il y a eu une violation sur les données de santé à caractère personnel, et ensuite, malheureusement, porter plainte pour que effectivement les forces de l'ordre puissent prendre les mesures pour enquêter sur ces attaques.
Mais là, vous parliez de la France, mais en Suisse, comment les médecins sont protégés face à ça ?
Alors, je connais mal, malheureusement, le système de protection en Suisse. Pour faire le parallèle avec d'autres pays comme le Luxembourg ou Monaco, il existe l'équivalent de l'ANSSI en France, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc, je pense qu'il doit exister une organisation nationale qui permette effectivement d'apporter des bonnes pratiques en termes de cybersécurité.
Avant de conclure ce podcast, une dernière question. Vous avez parlé de votre Serious Game, Didier. Vous avez d'autres outils qui pourraient permettre aux médecins d'avoir une approche un peu plus concrète de la cybersécurité et des cyberattaques ?
Malheureusement, il n'y a que des spécialistes cyber qui peuvent débugger le problème s'il apparaît, quoi. Les bonnes pratiques, c'est surtout penser à faire des sauvegardes régulières pour pouvoir revenir à un état du système sans virus, parce que souvent les ransomware ils attaquent de façon suffisamment insidieuse en fait pour s'insérer dans le système longtemps à l'avance et puis se déclencher à un instant T. Donc ça, c'est malheureusement le constat. Et puis après, c'est surtout la sensibilisation du personnel. Et donc, nous, chez Docha, on a créé un serious game qui permet de sensibiliser les directions métiers, plutôt informatiques, et les directeurs d'hôpitaux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la problématique, c'est de convaincre la direction générale d'investir sur la sécurité du système d'information, alors qu'il n'y a déjà pas les moyens sur le soin. Et en même temps, c'est de faire prendre conscience que si cet investissement n'est pas fait, ça aura aussi un impact sur le soin, puisque l'établissement ne pourra pas fonctionner. Donc c'est vraiment la difficulté aujourd'hui, c'est de réussir à faire monter tout le monde avec un niveau de d'appréhension des enjeux pour ensuite se dire ok, bah, on est dans le numérique, il y aura de toute façon des impacts, il faut vivre avec et essayer de au maximum contenir ce risque-là, ou en tout cas de le gérer et de savoir comment s'y préparer si jamais il apparaît. Et donc nous, on est vraiment dans la démarche de dire sensibilisons les directions, les DSI, parce que les RSSI, donc les responsables de la sécurité des systèmes d'information, n'y arrivent pas depuis de nombreuses années, parce que c'est trop technique, c'est trop fermé. Et donc le fait de faire un serious game qui met tout le monde autour de la table, ça permet vraiment de faire avancer les choses, au moins dans la compréhension des enjeux. Et nous, ça marche vraiment très bien, parce qu'en fait, en 2 heures de temps maximum, on a des directeurs hospitaliers qui disent « j'ai enfin compris à quoi servait le système d'information ». Et j'ai enfin compris que ce système d'information, bah, il pouvait être attaqué et donc qu'il fallait se investir dans la sécurité, que ce que me disait le DSI n'était pas n'importe quoi par rapport à un fonctionnement de l'hôpital qui aujourd'hui, bah, quand le service informatique gère les attaques en prévention, bah, ça ne se voit pas les conséquences. Si jamais il y a une attaque qui passe, les dysfonctionnements se voient tout de suite dans le fonctionnement de l'hôpital.
Merci, docteur Romain Guyot. Effectivement, donc là, l'idée, c'est de dire qu'il y a tout un chantier vers ces nouvelles problématiques, ces nouveaux enjeux qu'on ne peut pas ignorer, en tout cas. Et donc, il va falloir revoir ce paradigme et intégrer tout ça, malheureusement. En tout cas, c'était des pistes de réflexion à travers ce podcast. Un grand merci, Didier Ambroise, donc fondateur de Docha Consulting. Un grand merci au docteur Romain Guyot, anesthésiste réanimateur donc en Suisse. Et je vous dis à très bientôt sur un nouvel épisode de Time Out.
Merci, au revoir.
Merci Alexia, à bientôt.